Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était en 1950 sur la chaîne nationale. Fernandel racontait Marcel Pagnol et plus précisément le Pagnol cinéaste avec lequel il tourna 6 films. Avec des extraits de Marius, de Regain et du Schpounz, mais aussi de Geoffroy, le 2e film réalisé par Pagnol, était mis en scène dans l'émission que nous allons entendre un récit survolant la plus belle part de la carrière cinématographique de Marcel Pagnol. Une mise en scène dans laquelle deux Marseillais pur jus, Fernandel donc et la comédienne Marcel Ranson, étaient censés, à la demande d'un journaliste, apporter leur témoignage écrit sur l'œuvre de Pagnol. L'occasion de se rappeler que Pagnol mérita plus qu'aucun autre d'être considéré comme un auteur de cinéma et de retrouver pour le plaisir les voix de Rému, de Freinet, d'Orane Demazis, de Charpin, de Vattier et de quelques autres. L'occasion d'entendre Fernandel dans Le Schpounz et Regain et de l'entendre dire tout le bien qu'il pensait de son ami Marcel avec lequel il s'apprêtait alors à tourner Topaz. Un film dont le tournage houleux allait marquer le début d'une longue brouille entre les deux hommes. Les Rois de la Nuit, Marcel Pagnol, raconté par Fernandel, première diffusion le 26 février 1950 sur la chaîne nationale.
Les Rois de la Nuit.
Qu'est-ce qu'il y a, Fernand?
La question, tu n'as pas le téléphone.
Je l'entends.
Alors qu'est-ce que tu attends pour répondre? Je me le demande.
Oh, oui, voilà. Monsieur, oui, je peux pas.
Mais vraiment, je me le demande. Oh, les femmes sont extraordinaires. Elles n'en foutent pas un clou. Pourtant, pour répondre au téléphone, c'est pas compliqué. Alors, qui c'était?
Un journaliste.
Un journaliste au téléphone?
Oui.
Tu es sûr qu'il s'est pas trompé de numéro?
Je suis certaine. Il a choisi un numéro au hasard dans le beauté.
Évidemment. Et pourquoi il a tourné ce numéro au hasard? Tu le sais?
Oui, ce journaliste voudrait le témoignage authentique de 2 Marseillais sur l'œuvre de Marcel Pagnol.
De 2 Marseillais? En somme, moi et toi. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on décide?
Ben, c'est bien simple. Son témoignage, le journaliste va le lui faire. Et tout de suite.
Non, mais tu connais Marcel Pagnol, toi?
Alors, dis. Et qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Il est universel. Tu entends? Universel. Il n'y a peut-être qu'en Chine qu'on ne le connaît pas. Mais la Chine, tu sais, c'est loin.
Oui, tandis qu'en Amérique, les livres de Marcel Pagnol, c'est des livres de classe.
Voilà. On l'étudie avec les classiques et tout le bazar. Voilà, tiens, prends la plume, là, le papier et écris. Mmh. Et fais de belles lettres, hein. C'est très important. Allez, je dicte. Les Rois de la Nuit. Ce soir, l'œuvre de Marcel Pagnol par Pierre Vialet, avec 2 L. Et Maurice Cazeneuve, avec 1 Z. Interprétation, Fernandel, moi, Marcel Ranson, toi, et... Maurice Bessy, l'autre. Un point à la ligne. Marcel Pagnol est né à Aubagne. Il a fait ses études dans le Midi. Bon élève, il devient professeur à Pamiers, Ariège. Ça, tu le mets entre parenthèses. Un petit coin de France réputé pour ses haricots, ça n'en met pas. Et ses jolies femmes. Je vais pas trop vite.
Mais un peu.
Ah ben tant pis, c'est pas une raison parce que tu lambines pour que moi je laisse fuir l'inspiration. Allez, essaye de te dépêcher un peu. Bon. Tu y es?
Oui.
Marcel Pagnol est encore professeur dans les Bouches-du-Rhône et dans le département de la Seine. À cette époque, il est aussi boxeur. Et il gagne 2 combats.
Combat.
Quoi, je prononce mal? Combat, 2 combats, tu comprends pas? Avec un S. Là, parce qu'il y en a 2. L'un lui rapporte 6 francs et l'autre 12 francs. Bon, il est aussi inventeur. Il construit lui-même une automobile, espèce de trilogie mécanique. En effet... Attends, un moment, en effet... Ah oui, l'automobile est montée sur 3 roues. Elle a une puissance de 3 CV, ça veut dire chevaux, ça. Elle consomme 3 litres d'essence au 100. Malheureusement, au moment des essais, le véhicule roule quelques mètres et boum, fait explosion. Rigole pas comme ça, hein, je te prie. Ça me chatouille et puis ça me déplaît. Puis ça m'empêche de penser.
Bon.
Brusquement, après avoir écrit quelques pièces pour les principaux théâtres de Paris, Marcel Pagnol fait un malheur avec jazz.
Fait un malheur, ça me plaît pas beaucoup.
Pourquoi ça te plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te choque? Mm. Enfin, si ça te plaît pas, je vais le changer. Tu préfères peut-être... Parce que, avec jazz et topaz, Marcel Pagnol connaît un des plus grands succès dans l'histoire du théâtre.
Ben, c'est mieux comme ça.
On ne demande pas ton avis. Je te parlerai tout à l'heure. Avec Topaz, Pagnol a écrit comme, qui dirait, l'histoire satirique de notre époque. Et en marge, voici une anecdote. On est bien renseigné ou on ne l'est pas. Quand le père de Marcel Pagnol vint à Paris pour constater de ses yeux l'incroyable triomphe de Topaz, il écouta la pièce sans dire un mot. Muet. Mais après leur présentation, il dit à son fils. Et à part ça, Marcel, de quoi tu vis? Insensé, mais véritable.
Tu galèges.
Comme je te le dis.
Le journaliste m'a bien recommandé de ne parler que de Pagnol, cinéaste.
Coquin de sort. Et tu peux pas le dire plus tôt, ça, non? Alors je parlerai donc de la fameuse trilogie Marius, Fanny, César. Que sous son angle. Tu vois de quel angle je veux parler?
Ouais, l'angle du cinéma.
Mettons cinématographique, ça fait plus imposant. À cette époque, Marcel Pagnol voit dans le cinéma parlant un moyen de mettre le théâtre en concert. Mmh. Ah, s'il vous plaît, ne m'interromps pas tout le temps, hein? Je te dirai ça tout à l'heure, tu comprends rien du tout, vraiment. En attendant, revenons à Marius. S'il y a une scène qui est célèbre dans le cinéma, c'est bien celle de la partie de cartes.
Eh ben quoi, c'est à toi.
Je le sais bien, mais j'hésite.
Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain?
Ben oui. Allons, capitaine, nous vous attendons.
Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous
combien
nous
avons 30. Oui,
nous allons en 34.
Oui. Oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd.
C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur.
Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais.
Ne te gêne plus. Ne te gêne plus. Ne te gêne plus, Montolito, je pendant que tu y es.
Je n'ai rien dit, j'ai pas donné de renseignements.
Oui. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris.
Oui. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié.
Écoute, Panisse, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats.
Évidemment, je me demande toujours si Panisse coupe à cœur.
Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami.
Je dis bonjour à personne, je réfléchis.
Eh bien, réfléchis en silence.
Tu as raison, t'as pas besoin de parler.
Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein.
Ne vous fâchez pas, Panisse, ils sont cuits.
Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panisse coupe à cœur.
Yeah, il continue à faire des grimaces.
Tenez, tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César.
Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci.
Je te fais de la peine.
Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors, nous jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors.
Oh, très bien! T'es cœur!
Mais, est-ce que tu me prends pour un imbécile? Hein? Tu lui as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu! Tiens, tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur! Je ne joue pas avec un grain. Si on peut me faire tu ça, faut pas me prendre par un autre. Si on maître Panisse, et si c'est pas bon vivre par Maganta,
Tu me prends le cœur. Je ne veux pas ressortir dans ce là, alors. Tu me prends le cœur.
Il n'a pas l'air content.
Ah non.
Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon.
Ben, il a tort, monsieur Brun, voilà.
Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher.
Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes.
Ben, ouais, et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit.
Non, mais là, sans le caractère, il a un caractère impossible. Non, non. Hein?
Tu vois, Marcel, des quatre compères de cette partie de cartes, il ne reste plus que monsieur Brun, Robert Vattier. Oui, les trois autres sont morts, et parmi eux, le plus grand, mon ami Rému, qui a joué dans presque tous les films de Marcel Pagnol. Rému, qui a été César, le boulanger, le puisatier, et tant d'autres. Et voici le dernier adieu de Marcel Pagnol au grand Rému. On ne peut pas faire un discours sur la tombe d'un père, d'un frère ou d'un fils. Tu étais pour moi les trois à la fois. Je ne parlerai pas sur ta tombe. D'ailleurs, je n'ai jamais su parler, car c'était Rému qui parlait pour moi. Tu es aujourd'hui muet pour toujours. Ta grande et pathétique voix, sais-tu, et mon chagrin fait mon silence. Devant Delmont qui pleurait sans savoir, Jean Gabin qui a croisé tes mains sur ta poitrine, j'ai pieusement noué le papillon de ta cravate, et tous ceux de notre métier sont venus te saluer. Longuement, nous avons médité devant cette lourde statue de toi-même, nous avons découvert ce masque si noble que la vie nous avait caché. Pour la première fois, tu ne riais pas, tu ne criais pas, tu ne haussais pas tes larges épaules, et pourtant, tu n'avais jamais tenu autant de place, et cette présence de marbre nous écrasait par ton absence. Alors nous avons su qui tu étais. Des journalistes, des cinéastes arrivés par-dessus les frontières. Tu n'étais que notre ami. Nous avons vu brusquement que ton génie faisait partie du patrimoine de la France et que des étrangers qui ne t'avaient jamais vu vivant pleuraient de te voir mort. Tu prenais sous nos yeux ta place brusquement agrandie. Et puis il est venu des hommes qui ont enfermé dans un coffre énorme tant de cris, tant de rires, tant d'émotions, tant de gloire, tant de génie. Par bonheur, il nous reste des films qui gardent ton reflet terrestre, le poids de ta démarche, l'orgue de ta voix. Ainsi, tu es mort, mais tu n'as pas disparu. Tu vas jouer ce soir dans 30 salles et des foules vont rire ou pleurer. Tu exerces toujours ton art, tu continues à faire ton métier. Je mesure aujourd'hui toute la reconnaissance que nous devons à la lampe magique qui rallume les génies éteints, qui refait danser les danseuses mortes et qui rend à notre tendresse le sourire des amis perdus.
Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que le théâtre en conserve.
C'est une conception. Une façon de ne pas tenir compte de la technique, d'avoir la plupart des critiques contre soi et de remporter tous les suffrages du public. Bien entendu, il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à montrer. D'ailleurs, ces mots « théâtre en conserve » sont péjoratifs. Pagnol se défend en affirmant, primo, le film n'est pas du tout et à qu'un moment semblable à la pièce dont il est tiré. Secondo, le film n'est pas moins bon que la pièce, il est meilleur. Il permet d'alléger l'œuvre de ses conventions théâtrales et de lui ajouter tout ce qui n'entre pas sur le plateau. Voilà. Eh bien, les films de Pagnol, c'est peut-être pas du cinéma pur, mais c'est du bon cinéma. T'as compris?
Oui, j'ai compris.
Oui, tiens, allez, en fait, je t'expliquerai tout à l'heure. Revenons à Marius, parce que c'est peut-être le film le plus célèbre de l'entre-deux-guerres. Laissons les personnages s'expliquer. Voici d'abord César et son fils Marius.
C'est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût, tu es triste, tu es pâle. On dirait un anti-alcoolique.
Je suis peut-être un neurasthénique.
Toi?
Et alors?
Où tu l'auras attrapé, ça?
Eh, hey, ça vient comme ça, hein?
Ouais, ben ça va, n'essaye pas de monter le poids à ton père, hein? Oui, et toi, maman, tes colis sont de bavier, tu sais pas la perle de la lame? La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Mou et paresseux, tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur. Et tu connais pas ton métier.
Je le connais.
Non,
pas
tu ne le connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu sais pas encore baser un vermouth cassi ou un mandarin citron. Quand ton piquant citron curaçao de la maison, ça n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hier, le père Gougon est venu et il s'est plaint à moi. Oh, t'en prends difficile, voyons. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois?
Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà.
Et ça fait quatre tiers, hein?
Et alors?
Eh bien, il ne devait rien que trois tiers.
Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
Eh non, ça dépend pas.
Pourquoi ça dépend pas?
Ben c'est de l'arithmétique, ça.
Oui. Mais ne cherche pas l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas? Et la goutte sur le rouleau de la bouteille, c'est de l'arithmétique, ça aussi?
Quelle goutte?
C'est pourtant pas dit la goutte que tu laisses couler tout le temps sur le rouleau. Je te dis, c'est pourtant pas difficile. Coquin de sortir, regarde, tu verses comme ça, en faisant un quart de tour. Hop! Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le rouleau. Seulement toi, M. Marius, tu fais ça à l'amateur. Alors évidemment, la goutte coule sur l'étiquette. Oui. Et voilà pourquoi ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Ça fait rire, ça,
t'as aussi rire.
Je ris de ma patience, oui, de ma patience. Oui, oui.
Panis, un client de bistrot de César, veut épouser Fanny, la petite marchande de poissons. Marius, qui est amoureux de Fanny, mais qui ne veut pas l'épouser parce qu'il a une autre idée en tête, s'explique avec elle.
Tu n'es pas gentil de faire tant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas.
Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. C'est honteux ce que tu viens de faire avec ce pauvre vieux.
Quel pauvre vieux?
Tu vois pas que tu risques de le tuer, non? Du temps qu'il regardait dans ton corsage, il suait, il soufflait, il était rouge comme un gratte-cul.
C'était bien plus rouge que lui.
Ah!
Déjà soutien-gorge? Et puis ça te regarde pas.
Eh ben tu as raison. J'ai tort de m'en mêler. J'ai d'autres soucis en tête. Heureusement. Seulement, ce qui me fait peine, c'est de voir que tu es en train de devenir comme ta tante Zoé, voilà.
Alors, j'ai pas le droit de me marier?
Allez, Fanny, c'est pas possible. Tu as pas pensé à tout.
Mais comment à tout?
Tu sais bien que quand on se marie, il suffit pas d'aller à la mairie, à l'église.
On commence par là.
Et après?
Après? Il y aura un grand dîner chez Basso.
Mais après, quand tu seras seule avec lui?
Ben, je verrai bien.
Il faudra que tu te laisses embrasser.
Tant pis.
Mais il t'embrassera sur l'épaule. Hein. Et puis sur la bouche.
Tais-toi, Marius. Ne parle pas de ces choses.
Eh si, il faut en parler maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Il va te serrer dans ses bras, se dégoûtant, ce voyou. Oh, salido! Oui, oui, je sais bien pourquoi tu ris, va, mais ça n'est pas vrai.
Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai?
Tu ris parce que tu crois que je suis jaloux.
Oh, voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux.
Eh bien, justement, et je ne le suis pas.
Voilà.
Il suffit pas d'avoir joué aux cachettes 3 ou 4 fois pour être amoureux.
Bien sûr, Marius.
Oh, mais évidemment. Si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer joli comme tu es, ça n'aurait pas été difficile. Seulement, j'ai pas voulu.
Que sa fille ne tourne pas rond, et elle va trouver César.
Je suis passé par ici parce que... Je vais vous parler.
Je vais parler, ma mère.
Ah, c'est que c'est pas facile.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je viens vous parler de Fanny.
Fanny?
De Fanny. Et de Marius.
Mon père, saviez-vous? Vous avez un joli chapeau, frère. Qu'est-ce que je vous offre?
Je prendrai un mandarin citron.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Marie-Marie? Bien. Tu sais ce que tu as dit avec ça?
Enfin bref, Fanny se veut la petite.
Pourquoi faire?
Même pour l'épouser.
Hein? Fanny se veut épouser Fanny?
Il me l'a demandé ce matin.
Non. Mais il est fada, ce pauvre vieux.
C'est ce que j'y ai dit. Mais il veut une réponse pour demain.
Ben la petite, qu'est-ce qu'elle a dit, elle?
Ah, elle. Elle dira oui. Si elle ne peut pas avoir celui qu'elle veut.
Celui qu'elle veut? Et elle, c'est Marius qu'elle veut.
Tout juste.
Je comprends le carnage de hier. Une bataille terrible.
Ouais.
La police est venue, les gendarmes ont malheur, une catastrophe.
Enfin bref.
Quoi?
Marius ne veut pas qu'elle prenne Panis.
Oui, mais enfin, lui, il lui a dit qu'il aimait.
Pareil qu'il a fait comprendre.
Il a embrassé.
Et non. Si. Mais il a fait comprendre, voilà ce qu'elle m'a dit.
Comment il a fait comprendre sans l'embrasser? C'est bizarre, ça, tout de même. Enfin, quoi, ils se veulent tous les deux.
Marius lui a dit qu'il ne pouvait pas l'épouser. Il ne veut pas y dire. Ma petite, il a presque demandé sa main, ce beau monsieur. Il ne répond pas. Et me l'a fait pleurer sans vouloir dire pourquoi. Enfin, voyons César, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Et qu'est-ce qu'il lui faut à ce petit mastroquet? Une princesse?
Oh, que princesse! Vous passez pas, là, là. Il est joyeux, le chapeau.
Eh, laissez-moi mon chapeau.
Ah, qu'est-ce que vous voulez prendre de la poitrine? Il n'aime pas, hein?
Et puisqu'il ne l'aime pas, pourquoi est-il jaloux de Panisse?
Enfin, tout ça, c'est pas grave, ça va pouvoir s'arranger. Allez.
Oui, ben dépêchez-vous de l'arranger. Parce que si ma petite continue à pleurer comme ça la nuit, moi, j'en peux le faire votre baraque.
Calmez-vous, non, il m'a l'air, calmez-vous. Asseyez-vous. Marius ne la veut pas, on va l'attendre ici, Marius, on lui demandera pourquoi.
Ah non, pas devant moi.
Pourquoi?
Parce que je veux pas qu'il sache que je suis venue. Ah, c'est que je connais les hommes, moi. S'il sait que c'est ma petite qui y a demandé sa main, elle pourra plus faire une observation, parce qu'elle lui dira, « Eh, c'est toi qui m'as demandé un mariage, ok? C'est ta mère qui est venue dire que tu pleurais, etc., etc. » Il finira par la mépriser, et ils seront très malheureux.
Bon, ça, bien, je dirai rien seulement, il faudra pas que la petite lui parle de Panisse, alors.
Pourquoi?
Parce que vous connaissez les hommes, moi je connais les femmes, vous savez, quand ils seront mariés, à la première discussion, on lui dira, « Et dis qu'à cause de toi, je refusais Panisse, l'homme qui avait des familles de femmes, et maintenant je serai riche, et j'aurai l'automobile, et j'aurai la voile, et j'aurai le bateau, etc., etc., etc. » Et elle le fera mourir, là, à coup de Panisse. Je connais le refrain, allez, je le connais le refrain. Ma pauvre femme, c'est un machin de bestiaux qui l'avait demandé. Et elle m'en a parlé pendant 20 ans, vous entendez? 20 ans, elle m'en a parlé.
Marius est tourmenté. Il a envie de partir sur la mer et pourtant, il aime bien Fanny.
Il me semble que si je m'en vais maintenant, je ne te reverrai plus jamais.
Eh oui, tu me verras ici demain matin.
Marius, tu pars cette nuit.
Oui, peut-être, j'attends qu'on vienne m'appeler.
Marius, je t'en supplie, mais ça ne va pas. Et je t'en supplie, Marius, mais tu partiras sur un autre bateau, un autre jour. Marius, tu ne m'aimes pas.
Je ne t'aime pas? Eh bien, tu sais, si je ne t'aimais pas, il y a longtemps que je serais parti.
Marius part tout de même. Fanny, près de la fenêtre, regarde le port. César entre.
Marius! Marius, montre-moi la bouteille de rhum! La petite est malade! Marius! Où il est, ce petit, bon Dieu? Marius! Marius!
Après Marius, Pagnol confie la réalisation de Fanny à Marc Allégret. Puis, avec les bénéfices de ces deux films, il fonde une société et devient son propre producteur. Il tourne César, le gendre de M. Poirier, Léopold le Bien-Aimé, et il commence la grande série des romans de Jean Giono. C'est d'abord Geoffroy, en 1934. Geoffroy, c'est un fabliau.
Un quoi?
Un fabliau. Tu sais pas ce que c'est qu'un fabliau? Moi non plus, mais ça fait rien. Un fabliau, c'est... Enfin, c'est comme une fable en plus petit. Je veux dire, avec une toute petite morale. Mais une morale si petite que c'est comme s'il n'y en avait pas. Il reste seulement de la bonne humeur, du naturel, enfin quoi, la couleur locale. Geoffroy, c'est un fabliau paysan. Le père Geoffroy, c'est le compositeur Vincent Scotto qui l'interprète. Écoute un peu tout le foin qu'il fait pour vendre un simple verger.
La présente vente est faite et acceptée aux charges et conditions suivantes que l'acquéreur s'engage et s'oblige à exécuter. Primo, il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance les impositions, charges et redevances de toute nature auxquelles l'immeuble ci-dessus-vendu peut et pourra être assujetti. Secondo, il jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives qui peuvent exister au profit ou à la charge de l'immeuble présentement vendu à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs qui déclarent ne pas connaître de servitude passive sur l'immeuble vendu et n'en avoir créé aucune. Tertio, enfin l'acquéreur paiera les frais, droits et honoraires des présentes, s'élevant à 1210 francs. En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 12 000 francs, que les vendeurs reconnaissent et déclarent avoir reçu tout présentement en bonnes espèces de cour comptée délivrée à la vue du notaire sous-signé de Monsieur Alphonse Durbecq, acquéreur à qui ils en donnent bonne et définitive quittance. Vous avez compris, je crois.
Oui, j'ai bien compris. Il va me donner 12 000 francs.
C'est ça. Il va vous donner 12 000 francs.
Et toi, Geoffroy, tu me donnes le verger de la Mossam. Tu seras bien d'accord.
Oui, je te vends mon verger de la Mossam.
Le verger, mais pas la maison.
Tais-toi, barbe. Le verger, mais pas la maison.
Oui, c'est ça.
Je te vends le verger, mais pas la maison.
Rien que le verger de la Mossam.
Tais-toi, barbe. Tu as fini de te mettre au milieu. Rien que le verger. Vous l'avez bien mis sur le papier.
Oui, oui, ça y est, ne vous inquiétez pas.
Parce que la maison, je me la garde. C'est qu'elle vaut cher, la maison. Oui, Barbe. Mais dis-le un peu qu'elle vaut cher.
Oh oui, elle vaut cher.
Nous avons pu refaire le toit juste avant la guerre, en 1905. Alors, je me la garde.
Ah, mais nous sommes d'accord.
Où sont les sous?
Ils sont là.
Voilà. Et donnez-les-moi.
Tout à l'heure, Geoffroy, quand tu m'as donné un papier.
Alors tu crois que je vais te donner les papiers si tu me donnes pas les sous?
Et tu crois que moi je vais te donner les sous sans que tu me donnes le papier?
Oh, ça c'est trop fort. Par exemple, dites, monsieur le président.
Eh, oh, tu vois, le président, tu es folle, ma pauvre vieille. Excusez-la, ça fait son père, chien. Alors, tu les donnes, les sous?
Quand on va chez le marchand, Geoffroy, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On prend d'abord la marchandise, et puis après, on donne les sous.
Alors, alors, ne perdons pas de temps. Fonce. C'est à moi qu'il faut donner l'argent et c'est moi qui vous remettrai les papiers.
Ah, comme ça, c'est mieux. Non, je crois, c'est pas que j'ai pas confiance en toi.
Oui, tu as tellement confiance en moi que tu ne veux pas me donner les sous. Ça va bien.
Mais puisque c'est monsieur le président qui va te les donner, je crois.
Ma pauvre barbe, tu ne dis que des bêtises. Elle ne parle plus que tu fais rigoler le monde.
Ah, tenez, je crois. Vous allez signer ici.
Bien sûr que pour ce papier, je ne lui donne pas la maison.
Oui, c'est sûr, mais j'ai peur de rien.
Bon, alors je signe.
Et vous, madame Geoffroy, vous savez signer?
Un peu, monsieur le président. Un petit peu. Pas beaucoup, naturellement, mais un petit peu.
Est-ce qu'elle sait signer?
Mais oui, elle sait. Mais pourquoi vous demandez ça?
Parce qu'il faut qu'elle signe, c'est la loi.
Ah, par exemple, ça serait une drôle de loi. Alors, parce que je vends mon verger, il faut faire signer ma femme.
Non, mais moi, quand même, je voudrais qu'on fasse les choses en règle. Il faut qu'elle signe.
Il faut qu'elle signe, ben, je la signerai pour elle.
Et puisque c'est la loi,
c'est pas la loi qui commande dans mon ménage, c'est moi.
Non, non, je crois, on le sait bien. Mais quand je te demande quelque chose, c'est bien rare que tu dises non.
C'est pas vrai, je dis toujours non. Et puis... Pourquoi tu veux signer? Tu veux peut-être faire croire que c'est toi la patronne?
Non, non, Geoffroy, mais ça me ferait tant plaisir si tu voulais.
Et pourquoi?
Parce que ça me ferait de l'honneur de signer à côté de toi dans une chose si importante.
Ça, c'est vrai.
J'ai signé qu'une fois dans ma vie. Un jour, j'ai signé à côté de toi.
Où?
Pour notre mariage, Geoffroy.
Si. Non, signe première.
Entre deux Giono, Pagnol écrit et réalise des pièces de cinéma. Le Spoons, par exemple. Comme toujours, Marcel Pagnol se soucie peu de la technique. Pour lui, le cinéma, c'est un moyen de diffuser la pensée. On lui a souvent reproché de trop faire parler ses personnages. Comme si dans le midi, les gens, ils avaient rien à dire. Peu cher.
Mais moi, par exemple, je parle pas beaucoup.
Oui, ça s'explique, parce que tu as un mari exceptionnellement doué pour la parole en général... et pour dicter des articles en particulier. Je m'en crois pas. Aussi, je continue. Moi, et quand je dis moi, c'est de moi personnellement qu'il s'agit. Je trouve que le dialogue au cinéma n'est pas gênant, quand il est de qualité. Écoute la façon dont commence l'histoire du Spoons, et celle-là, tu sais, je la connais.
C'est toujours la même chose, et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais... On ne saura jamais qui c'est, qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurais jamais rien.
En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi.
Moi, j'étais à la messe. Je sais que c'est pas moi non plus.
Alors, qui est-ce?
C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole.
Tu as pris, toi, des croissants?
Ah, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir.
Ça, non.
Pourquoi ça, non?
Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui.
Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça.
Oui. Et ça n'a jamais servi à rien.
Ni alors à quoi ça sert que tu me le redis?
Je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle, oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament.
Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon Ariel.
Oh, que non. Bon Ariel, mais ce sera tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
Je te saisis, je suis profondément blessé.
Voilà. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril.
Il est aveugle, M. Carbonnière?
Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques.
Voilà. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui.
Lui? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui.
Qu'est-ce que c'est?
Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours. Jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui. Pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerai plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé de seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie. Tranchée. Adieu, Graziani.
Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion.
Oh, mais il faudrait plus avoir de lunettes, plus d'odorat, plus de palais pour s'offrir une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. Il faudrait l'attacher dans le plat, parce que cette nuit, il va s'en aller.
Ce qu'il faut t'entendre.
Mais Clarisse, laisse le dire. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente. Et j'en ai mangé par gourmandise.
Oh, mais toi, tu as l'habitude. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, fortifié, blindé. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia.
Dis-moi, tu m'appelles alambic, grossier.
Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère...
Il se met en colère, il va encore s'étouffer comme d'habitude. Et ça me fera de la peine, parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi, je l'aime beaucoup.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est?
Vous en avez encore des anchois des tropiques?
Ah non, pour le moment, nous en manquons.
Et quand c'est que vous en aurez?
Ah, il faut le temps pour les faire. Dans deux ou trois mois, quand ils seront mûrs.
Et je pourrai en trouver ailleurs?
Impossible.
Spécialité de la maison.
Alors, tant pis, merci quand même.
Oui.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir, monsieur. Bravo. Voilà une pire leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe. Un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Eh bien, lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau, un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et il en fait une friandise inconnue.
Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier, à celui des acates. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoisonner.
Eh bien, c'est ça, délivre-le. Repose-lui son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. J'ai une envie terrible de me mettre en colère.
Non, non, non. Tu vas t'étouffer.
Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine que je m'étouffe une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est une chose imaginable, un individu qui ne veut pas travailler?
Ah, pardon, je ne veux pas travailler dans l'épicerie. Quand je me vois dans cette boutique...
Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois.
Et si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur de discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer à un sou de moins. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça.
Et pourquoi es-tu né?
Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don.
Oui, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû te payer grand-chose.
Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu.
Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu.
En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner.
Un talent caché.
Bien caché.
Moi je sais ce que c'est.
Si jamais tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu es un homme déshonoré.
Je ne le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai que tu as un talent caché et que moi, je le sais depuis longtemps.
Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent?
Des millions, tout simplement.
Des millions de quoi?
De francs.
Oh, folie des grandeurs. Il ne manquait plus que ça.
Hein. Tu ne me crois pas? Non, mais je le savais, ça.
Tu sais combien il faut vendre de morue sèche pour arriver à gagner 1 million de francs?
Non, et je ne veux pas le savoir. Mais moi, je gagnerai des millions parce que j'ai un don.
Je pense que tu as reconnu ma voix au passage. Parce que le Spoons, le Fada, c'est moi. Hein? Pas si Fada que ça, hein, comme tu vas le voir. Donc, dans le film, je veux faire du cinéma. On tourne le film dans les environs. C'est-à-dire, on tourne un film dans les environs. Et je me présente.
Alors, sérieusement, vous songez à faire du cinéma?
Monsieur, c'est-à-dire que non seulement j'y songe, mais j'en rêve, j'en suis malade, j'en crève. Le cinéma, monsieur, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je ferais n'importe quoi, je le jouerais même gratuitement. Le premier, bien entendu.
Mes enfants, j'ai une idée. Et je m'étonne qu'aucun de vous ne l'ait eu avant moi.
Quelle idée?
Et le Spoons. Le Spoons. C'est lui.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce que c'est que le Spoons? Le Spoons, monsieur. Le Spoons, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner.
Aucun.
Ah, aucun. On a essayé toutes les plus grandes vedettes.
Toutes.
Tous les plus grands noms de l'écran, aucun n'a pu l'incarner. C'est Greta Garbo en homme. Vous vous rendez compte?
Monsieur, vous m'effrayez un peu.
Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un Spoons, mais à l'écran...
Il serait encore beaucoup plus Spoons.
Oh, ça, c'est à voir.
Oh non, ça, mes enfants, moi, je donne mon avis, n'est-ce pas? Ça, il est bien évident que ce serait subordonné à des essais.
Ben, enfin, on peut se tromper, moi.
Ah oui, mais alors, ces essais qui sont la base de tout, quand les fait-on?
Ah, moi, je peux tout de suite faire un essai de son, si vous voulez.
Est-ce que vous savez quelque chose par cœur? Un poème? Une chanson?
Oui, oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant.
Ah, oh, mais c'est qu'il est très intéressant.
Mais laisse-le donc parler.
Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Oh, c'est pas gay, ça.
Non, c'est pas gay, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression.
Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression?
Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est prêt?
Oui, oui, absolument.
Eh bien alors, je commence.
Voilà.
La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Hein?
Oh, bravo.
Oh, ça c'est inouï alors. Mmh. La pitié.
La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Interrogatif et affirmatif.
Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. N'est-ce pas?
Pensif.
Tout condamné à mort.
Oh, ne quittez pas l'expression, gardez l'expression.
Elle ne bougeait plus. Voilà.
Comique.
Et maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous chanter, parce que j'ai un peu de voix aussi, une petite chanson de ma composition qui met en relief les deux faces de mon petit talent.
Sans musique?
Oh, monsieur, moi, vous savez, quand je chante, l'orchestre, je l'entends. Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la dame est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à berbe. Le gros la maigre, la maigre le gras. Le doucereux adore la femme à serbe. Quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour ces mets, c'est très curieux. Il n'y a pas de juste milieu. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour.
Évidemment, par la suite, je me suis rendu compte que les cinéastes se foutaient de moi. Ils m'ont fait venir à Paris, où ils sont encore foutus de moi. Mais petit à petit, avec de la persévérance, je suis tout de même arrivé à être un artiste, un vrai.
Un qui fasse pleurer.
C'était mon rêve, ça. L'émotion.
C'est souvent plus commode que le comique.
C'est ce qu'on m'a dit.
Tu pourrais peut-être dire dans ton article ce que Pagnol pense du rire.
Ce qu'il en pense, mais je l'ai exprimé dans le Spoons. Pendant qu'on projetait le film, moi, j'attendais impatient dans le couloir.
11h20, la scène d'amour. Ils sont en train de se foutre de moi.
Mais il y a plusieurs façons de rire.
Il y a aussi plusieurs façons de ne pas rire et d'avoir du chagrin.
Et pourquoi en auriez-vous? Demain vous serez célèbre, demain vous serez riche.
À quoi bon? Il m'arrive le malheur le plus ridicule. Ne pas atteindre son but, c'est grave. C'est une grande déception. Mais atteindre un but tout à fait opposé et réussir, pour ainsi dire, à l'envers, c'est la preuve la plus éclatante que l'on est un véritable idiot.
Ce n'est pas vrai. On ne se connaît jamais soi-même.
Écoutez, supposez qu'un ingénieur ait inventé un nouveau canon qui tire plus loin que les autres. Au premier essai, le canon tire par derrière. L'ingénieur, qui surveillait le tir, plein d'espoir et de fierté, reçoit l'obus dans l'estomac. Il tombe et il meurt. Eh bien moi, mon canon tire à l'envers. Et je me sens plus triste que si j'étais mort.
Votre succès va vous ressusciter.
Et vous croyez que je vais accepter un succès de comique? Oh non.
Mais pourquoi?
Rire. Faire rire. Devenir un roi du rire. Oh, c'est moins effrayant que d'être guillotiné, mais c'est aussi infâme.
Mais pourquoi?
Des gens vont dîner avec leur femme ou leur maîtresse, et vers les 9h du soir, ils se disent « Ah, maintenant qu'on est bien repu et qu'on a fait les choses sérieuses de la journée, où allons-nous trouver un spectacle qui ne nous fera pas penser ?» qui ne posera aucun problème et qui nous secouera un peu les boyaux afin de nous faciliter la digestion.
Mais vous exagérez tout.
Oh non, c'est même encore pire. Ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent voir un comique, mais c'est un homme qui leur permette de s'estimer davantage. Alors pour faire un comique, le maquilleur approfondira une ride. Il augmentera un petit défaut. Au lieu de corriger mon visage,
Au lieu d'essayer d'en faire un type d'homme supérieur, il le dégradera de son mieux avec tout son art. Et si alors, j'ai un grand succès de comique, cela voudra dire que dans toute la France, il ne se trouvera pas un homme qui ne puisse pas se dire « Ce soir, je suis content. » J'ai vu et j'ai montré à ma femme un homme plus bête et plus laid que moi. Il y a une espèce de gens auprès de qui je n'aurai aucun succès. Les gens instruits, les professeurs, les médecins, les prêtres. Ceux-là, je ne les ferai pas rire. Parce qu'ils ont l'âme assez haute pour être émus de pitié. Allez, Françoise. Celui qui rit de notre homme, c'est qu'il se sent supérieur à lui. Celui qui fait rire tout le monde, c'est qu'il se montre inférieur à tous.
Il se montre peut-être, mais il ne l'est pas.
Pourquoi ?
Mais parce que l'acteur n'est pas l'homme. Vous avez déjà vu sur l'écran Charlot recevoir des coups de pied au derrière. Croyez-vous que dans la vie, M. Chaplin accepterait seulement une gifle ? Mais il en donnerait plus tôt. Mais c'est un grand chef dans la vie, M. Chaplin.
Alors, pourquoi s'abaisse-t-il à faire rire ?
Mais ceux qui font rire sur la scène ou sur l'écran ne s'abaissent pas, bien au contraire. Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs mains si dures qu'ils ne peuvent pas les fermer. Ceux qui sortent du bureau avec leur petite poitrine étroite qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui reviennent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Mais faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu la mer ou qui la perdront.
Et qui c'est cela ?
Tous. Ceux qui n'ont pas encore perdu la mer la perdront un jour. Celui qui leur fait oublier un instant les petites misères, la fatigue, l'inquiétude et la mort. Celui qui fait rire des êtres qui auraient tant de raisons de pleurer. Mais celui-là leur donne la force de vivre et on l'aime comme un bienfaiteur.
Même si pour faire rire il s'avilit devant leurs yeux ?
Mais s'il faut qu'il s'avilisse et s'il y consent, le mérite est encore plus grand. Puisqu'il sacrifie son orgueil pour alléger nos souffrances. Mais on devrait dire Saint Molière. On pourrait dire Saint-Charlot.
Mais leur rire, c'est une espèce de convulsion absurde et vulgaire.
Oh non, ne dites pas du mal de rire. Il n'existe pas dans la nature. Les bêtes ne rient pas. Les arbres ne rient pas. Les montagnes n'ont jamais ri. Les hommes seuls. Les hommes et les tout petits enfants, ceux qui ne savent pas encore parler. Le rire est une chose humaine. Il appartient qu'aux hommes. Et c'est une chose que Dieu leur a peut-être donnée pour les consoler d'être intelligents.
Et voilà, après le Schpunz, Merlus, Pagnol s'engage dans les aventures paysannes. La Provence est son décor, les hommes de la terre ses personnages. Jean Giono, son poète.
Fernandel, son principal interprète.
Oh, tais-toi, tu vas me gêner. Et ça, ça donne Angèle, en 34, Roguin, en 37, en 38, la femme du boulanger, et en 39, avec Rému, la fille du puisatier. Et plus tard, Naïs. Enfin, Marcel Pagnol entre à l'Académie française. Et c'est pour la première fois le cinéaste, autant que l'homme de lettres, qui est ainsi honoré. Évidemment, dans ses films paysans, on peut reprocher à Marcel Pagnol d'insister sur le thème « retour à la terre ». N'y retourne pas qui veut. Au XXe siècle, on ne peut plus se permettre d'être poète qu'en vacances. Mais les personnages de Pagnol sont vivants, même s'ils ne sont pas toujours vrais. Même s'ils appartiennent à un monde un peu trop beau pour nous, et si les enfants naturels y circulent un peu trop librement. Dans Roguin, je suis un rémouleur, et je sauve une pauvre fille qui vient de se faire violer par cinq charbonniers forts comme des Turcs.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, tu peux le dire. Donc, je la sauve. Sur la place du village, il y a un café, le café oriental. J'y entraîne la pauvre fille et je lui dis...
Mademoiselle, ne pleurez plus. Écoutez-moi, je vous dirai une bonne chose. Je suis Gédémus, le rémouleur.
Oui.
Bon.
Oui.
Bon. Je suis rémouleur et seul au monde. Comme vous, sans doute.
Oui.
Ah, c'est triste d'être seul.
Ah oui.
Mais si vous voulez venir avec moi, pour travailler et gagner votre vie.
Oui. Et bien entendu, il va falloir que je couche avec vous.
Ah, naturellement, ça, c'est pas le côté intéressant de la question, mais enfin, il faut y penser tout de même.
Oui. Bon.
Et même puisque nous sommes d'accord, écoute-moi bien. Ah, viens. Tu as des frusques?
J'ai que celle-là, il est parti avec la malle.
C'est méchant, mais c'est pas bête, ça. Hein? Alors, comment on va faire?
Il va falloir m'acheter une robe.
Voilà les femmes. Dépensier, hein? Comme si pour acheter une robe, il ne fallait pas de l'argent.
Mais vous n'en avez pas, vous, de l'argent?
Mais oui, j'en ai. Un petit peu. Mais pas pour acheter des robes. Et pourtant, c'est pas faute de le travailler. J'aiguise toute la journée, depuis des années. Depuis le premier jour que j'ai commencé à aiguiser, on m'avait donné à frotter sur ma meule le rail qui va de Paris à Marseille. À l'heure qu'il est, il n'en resterait plus qu'un mégot. Et pourtant, je ne suis pas riche. Hein? Ce qui prouve que le travail n'a jamais enrichi personne. Mais moi, mon travail me plaît et me fait vivre.
Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour vous aider?
On verra. Et pour la robe, il faut aviser. Alors, tu peux pas garder celle-là. Ah, non. Non, c'est pas... Elle fait pas assez... rémouleur.
Non. Elle fait pas rémouleur.
Et les souliers que tu as, tu peux marcher avec?
Oh, oh non, c'est du carton.
Oh, alors, si c'est du carton, on ne peut rien faire avec des souliers en carton.
On peut dormir.
Roguin, c'est l'histoire d'un village abandonné, Aubignan. Tous les habitants sont partis à la ville. Il ne reste plus qu'un paysan célibataire, Panturle, et la mamèche, une vieille. Moi, bien sûr, je traverse Aubignan avec Arsule et la baraque. Et je suis le dindon de la farce. Arsule, pendant une nuit mystérieuse, disparaît. C'est la mamèche, comme elle l'avait promis, qui a fait la sève du village. Arsule et Panturle se marient. Le village commence à renaître. Pour la femme, Panturle fait du blé. Les hommes du village reviennent. Moi, cette histoire d'Arsule me tracasse. Je veux en avoir le cœur net et je vais trouver Panturle.
Il m'a semblé te voir à la foire. Et on m'a dit que tu sais où elle est, cette femme, toi.
Oui, je le sais. Elle est ici avec moi.
Et alors?
Alors, bien.
Après tout ce que je t'ai dit?
Oui, après tout ce que tu m'as dit. Parce que ça ne compte pas, et voilà. Et puis si elle est si mauvaise que ça, tu dois être bien content d'en être débarrassé.
Content? Dans un sens, oui. Je suis content. Seulement cette femme, moi, je l'ai sauvée des brutes qui l'a martyrisée. Moi, je l'ai sauvée.
Moi aussi, tu dis que tu m'as sauvé.
Et c'est vrai. Oh, c'est formidable ce que j'ai sauvé déjà.
Il n'a pas beaucoup l'air d'un sauveur.
Et pourtant. Et puis, elle a disparu. Je suis allé prévenir les gendarmes. Ils m'ont gardé 2 jours, bien entendu. Et ça, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. C'était ma femme, après tout. Je l'ai nourrie pendant des mois et des mois. Puisque tu veux garder la femme à la place, donne-moi un âne.
Bon, ça va. Je ne suis pas de ceux qui prennent dans le bien des autres. Et j'aime quand on se parle en face. Tu sais, à vrai dire, que ça n'est qu'un jour ou l'autre, tu viendrais. Alors, comme tu es venu aujourd'hui, bah, on va régler ça aujourd'hui.
Puis ce sera fini.
Hein? Tu vas voir. Voilà. Là, je te le paye. Tu comprends? Je te remplace la femme par un âne. Tu comprends? Je te donne de quoi acheter un âne. Et c'est fini. C'est tout. C'est fini.
Maintenant, tu pourrais peut-être conclure, hein?
Soit, mais c'est bien pour te faire plaisir. Car j'ai conscience de tout ce que je n'ai pas dit.
C'est déjà quelque chose.
Eh oui, c'est déjà quelque chose. C'est même beaucoup. Donc, pour résumer la chose, je dirais que les histoires de Marcel Pagnol, elles font mouche. Le public, il se moque pas mal de la technique. Ce qu'on veut, c'est du vrai. Des arbres qui sont des arbres. Et des hommes qui sont des hommes. Des choses qu'on connaît, quoi. Et où on se retrouve. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais je pense que ce que tu dis ne se rapporte pas assez au cinéma.
Simple erreur d'orientation. Voici donc une conclusion signée personnellement Marcel Pagnol. Le cinéma n'a que 50 ans et voici qu'il est déjà le plus puissant de tous les arts d'expression. Plusieurs s'en servent comme d'une nouvelle forme de l'art dramatique. D'autres comme d'une forme nouvelle du roman. Pour Jean Cocteau, il ne peut servir qu'à la poésie. Tandis que la Société de géographie n'estime que les documentaires. Pourquoi nous corroler et ressusciter de vieilles polémiques? Puisqu'il peut tout faire, qu'il fasse tôt.
Bon, je crois que tu as assez écrit. On va demander à M. Bessier, au journaliste, ce qu'il pense de ton article.
Ah oui, à l'autre maintenant.
Eh bien oui, voilà. J'ai écouté votre article, votre papier, comme nous disons, avec cette indulgence agressive que les journalistes adoptent dès que des amateurs font irruption dans le métier. Ne croyez surtout pas que je vais danser devant votre témoignage la polka de l'enthousiasme. Autrefois, les journaux informaient. Aujourd'hui, ils s'attachent à distraire. Vous, vous avez fait la synthèse de l'information et de la distraction. Vous nous avez présenté Pagnol à travers ses œuvres, à travers ses personnages. Je ne vous reprocherai pas d'avoir glissé trop rapidement sur certains de ses films, mais il me semble par exemple que La fille du puisatier méritait mieux qu'une simple mention. En voici une scène témoin.
Il voudrait t'épouser. Il dit que comme ça, l'enfant, il changerait de nom et il serait plus bastard. Et il veut te marier. Il t'en parlera d'ailleurs. Eh bien, il faut que tu lui dises non.
Bien, père.
Et pourquoi tu dis bien, père? Il est gentil, Philippe, il fera un bon mari. Pourquoi tu lui dis de dire non?
Parce que ce serait malhonnête. L'enfant, il serait peut-être pas bastard, mais Philippe, il serait un pire bastard. Et Philippe, il aurait plus d'honneur.
Et qui le saura que ce petit n'est pas à lui?
Mais moi, je le sais. Monsieur Mazel le sait. Enfin, c'est une chose qu'on le sait. Et alors, il faut qu'elle dise non.
Écoute, père, je lui ai déjà dit non. Et d'ailleurs, je n'ai que de l'amitié pour lui.
Bon.
Oh, et puis, elle n'a pas besoin de ça, va. Ici, il y a de gentils aviateurs.
Il me semble que ces messieurs des aéroplanes, dans la famille, on ferait bien de s'en méfier.
Mais c'est eux qui nous courent derrière. Il y en a de très gentils. Et si elle veut se marier, elle n'a pas besoin de Philippe. Et si le petit a besoin de changer de nom, eh bien, il aura un joli nom. Un nom de la ville.
Ah, c'est dans ça que vous manigancez, hein? Alors, un seul crime, c'est pas assez suffisant. Tu ne te prépares un second, hein? Et je m'en doutais, d'ailleurs. Eh bien, parce que comme ça, tu vas faire les paquets et tu vas rentrer à la maison tout de suite, tu entends?
Avec mon fils?
Amène-le si tu veux, mais moi, je veux pas le savoir, hein?
Alors, il vaut mieux que tu l'emmènes pas chez toi, va. Puis tu comprends, cet enfant, c'est la grosse honte de la famille. Oui. C'est l'enfant du péché.
La deuxième honte après toi.
Eh oui, mais les hontes, c'est fait pour vivre ensemble. Alors moi, je le garde et je vais l'élever, ce petit. Tu n'entends pas? Tu es devenu sourd, non?
Oui, comme ça. Ça sera très bien. Seulement, elle ne voudra pas.
Pourquoi pas? Après tout, tu sais.
Ah, si tu es d'accord. Moi, je suis d'accord. Nous laisserons ici, voilà.
Et ben comme ça, c'est simple.
Oui, c'est simple. Seulement, je suis sûr dans le fond qu'elle ne le veut pas, voilà.
Et puisqu'elle vient de te dire que oui.
Elle a dit oui, seulement ça veut dire non. Parce que moi, je la connais, ça doit être l'enfant du malheur, et bien elle ne veut pas s'en séparer, voilà.
Oh, tu sais, avec tante Nathalie, il ne sera pas abandonné.
Ah, ben ça, c'est ce que je dis, et c'est la vérité. La vérité, parce que moi, d'amener cet enfant à la maison, ça me fait mal au cœur. Oui, parce que contre lui, moi, j'ai la grosse colère. J'ai de la rancune, des misères qu'il m'a faites. Seulement, toi, voilà, toi, et toi, toi, je te connais, et si tu l'amènes pas, ben, tu vas dépérir, tu vas languir, tu mangeras plus, tu vas maigrir, et au bout de quelque temps, tu me demanderas de venir me chercher.
Eh non, je te le demanderai pas.
Qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? Tu as vu les enfants, non? Heureusement, tu en avais au moins 50. Alors, qu'est-ce qui te parle?
Et toi, qu'est-ce que c'est que ce mensonge-là? Tu crèves d'envie de l'emporter et tu fais celle qui ne veut pas. Hein? Et je dis, c'est pas mieux de dire la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Moi, les hypocrites, je les aime pas, tu entends? Quand on a envie de faire quelque chose, on le dit. Et si on ne si le dit pas, eh bien, on le fait. Mais... Je vais le noyer, de tout sûr.
Et vous auriez pu tout aussi bien insister davantage sur la femme du boulanger.
Oui, mais rien que pour ce film, il aura fallu au moins une heure d'émission.
Je suis bien aise de vous l'entendre dire.
Pour vous couper l'herbe sous les pieds, je m'empresse de dire que nous avons bien involontairement oublié la belle meunière.
Vous vous en expliquerez avec les frères Roux, qui vous en feront voir de toutes les couleurs. Non, rassurez-vous, je ne vous ferai plus aucun reproche, au contraire. Car vous m'avez laissé la meilleure part, à force de parler de ces pièces, de ces films, de ces dialogues, il me semble que vous avez oublié l'essentiel, l'homme. Celui qui est présent derrière chacune de ces images, à l'affût derrière chacun de ces mots inoubliables. L'homme, Pagnol. Même pas Marcel Pagnol. Encore moins Monsieur Marcel Pagnol de l'Académie française. Tout simplement Pagnol. Ils sont rares, n'est-ce pas, ceux que le monde désigne sous leur seul patronyme. On a depuis longtemps oublié de dire William et aussi Jean-Baptiste, de la même grande famille, voilà Pagnol. Je voudrais éviter l'emphase, les grands mots, les épithètes de ciel gris, mais dans ce monde étrange, précipité et grincheux, le nom de Pagnol résonne comme un coup de tambourin. Il brille comme une fleur d'amandier, il a un parfum de lavande. Dans ce demi-siècle, plus riche en progrès que les 5000 années qui l'ont précédé, Pagnol n'a pas cessé de nous dire « L'homme, ce n'est pas la vitesse, la course à la mort, la jonglerie avec les atomes. Mais l'homme, c'est un cœur qui bat, comme ont battu tous les cœurs de braves gens. Merci de m'avoir laissé le temps de dire qu'au-delà de son talent, de son rire sain et de sa réussite, Pagnol, Pagnol l'unique, Pagnol seul, nous a donné rendez-vous avec le bonheur.
Vous venez d'entendre Marcel Pagnol raconté par Fernandel, un numéro de l'émission Les Rois de la Nuit, proposé par Maurice Cazeneuve et Paul Vialet. Y participaient également Marcel Ranson et Maurice Bessy. Première diffusion le 26 février 1950 sur la chaîne nationale.